Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet au nom un petit peu barbare, mais un sujet ô combien crucial, les perturbateurs endocriniens ou les perturbateurs hormonaux. Il paraît que notre sperme est deux fois plus faible aujourd'hui qu'il y a 50 ans, et l'une des raisons majeures de ce phénomène, ce sont les perturbateurs endocriniens. Bonjour Michel Rivasi.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputé Europe Écologie Les Verts, on vous connaît bien dans cette émission. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, parle d'une menace mondiale au sujet des perturbateurs endocriniens. Pourtant, honnêtement, on n'en sait pas grand-chose.
Ah, si, on sait plein de choses. On sait plein de choses. On sait que ce sont des produits chimiques qu'on a mis de partout, aussi bien dans les plastiques. On a quand même entendu parler en France du bisphénol qu'on a interdit dans les biberons, dans les conserves. Il y a les phtalates qu'on mettait dans les tétines, même des biberons, dans les jouets des enfants. Il y a les retardateurs de flamme. Il y a, par exemple, le glyphosate, vous savez, qui est dans le Roundup.
Bon, il y en a de partout. Les bisphénols et les phtalates, on les a enlevés, alors c'est bon.
Ben non. Parce que il y a énormément de phtalates, comme il y a énormément de différents types de bisphénol, et c'était à la Commission, grâce à des directives, notamment une directive sur les pesticides et une directive sur les biocides, on avait demandé à la Commission qu'en décembre 2013, ils aient acté les critères qui définissent précisément, d'un point de vue scientifique, ce qu'est un perturbateur endocrinien.
Il y a deux ans, normalement, la Commission devait apporter une définition de ce que sont les perturbateurs endocriniens pour pouvoir légiférer là-dessus. Est-ce que la Commission l'a fait?
Non.
Non. Jean Quatremer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correspondant de Libération, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Visiblement, ces perturbateurs endocriniens, donc c'est une menace mondiale, c'est un enjeu énorme, et la Commission européenne ne bouge pas. Pourquoi?
La Commission européenne est entre le marteau et l'enclume, on va dire. Parce que les perturbateurs endocriniens sont présents dans plus de 80 000 produits dans le monde. Donc c'est vrai que les enjeux économiques sont majeurs. C'est-à-dire, on peut pas juste dire « Ah, c'est pas bien, faut les interdire ». En clair, il faudrait quasiment tout interdire, les pesticides, etc. Donc elle est extrêmement prudente. On peut pas non plus... ça m'embête un peu de la défendre, mais c'est quand même elle qui est à l'origine d'une législation, par exemple la législation REACH, la législation aussi sur les perturbateurs endocriniens, au départ. Et après, c'est vrai qu'elle a été lobbyisée par les industries qui ont dit, mais attendez, si vous commencez à les interdire à tout va, il y a des secteurs, des pans entiers de notre industrie qui vont disparaître. Il faut qu'il y ait un lien de causalité très clair qui soit établi.
Les intérêts économiques sont-ils plus importants que notre santé? On va parler des perturbateurs endocriniens. Demandez le programme pour réagir. Hashtag 500ME. Alors les phtalates, le bisphénol A, le parabène, dans 80 000 produits, ils sont présents toutes ces substances chimiques qui sont finalement invisibles. De quoi s'agit-il exactement? Vous êtes médecin, Michel Rivasi. C'est quoi ces perturbateurs endocriniens?
Ce sont des molécules, si vous voulez, qui vont mimer les hormones. Et dans le développement, par exemple, du fœtus, vous savez que quand on est un garçon ou une fille, il y aura la formation des appareils génitaux. Si vous avez une hormone qui capte des récepteurs, eh ben ça va modifier complètement les appareils génitaux mâles et femelles. Ça explique que, par exemple, des jeunes filles, si, par exemple, il y a trop de pesticides dans son alimentation, ou lorsqu'une femme est enceinte, eh bien, elle va avoir une puberté précoce. À 8 ans, elle pourra avoir ses règles. Un garçon, il va y avoir une féminisation. Et puis, c'est un véritable... Vous parlez des problèmes économiques. C'est un véritable problème de santé.
Jean Quatremer se sent concerné. Tout à coup, il m'a regardé. Il va y avoir une féminisation, pardon. Donc, oui, pardon, Michel Rivasi.
Il y a une explosion, par exemple, des cancers, ce qu'on appelle hormonodépendants. Il y a des cancers du sein, des cancers de la prostate. Vous avez mentionné la perte de fertilité. fertilité. Vous avez des problèmes maintenant. La semaine dernière, il y a eu une grosse réunion à Paris avec tous les experts. On observe une augmentation du diabète 2. Et si vous voulez, c'est en liaison avec l'augmentation de l'industrie chimique. Alors effectivement, l'industrie chimique, lorsqu'elle a vu que la commission devait préciser ses critères, a fait passer des mails pour dire « Non, il faut faire une étude d'impact économique, il faut savoir combien ça va nous coûter. » Mais attendez, là, c'est un problème de santé. Mmh. Et on a eu une ministre suédoise remarquable qui a attaqué la Commission, la Cour de justice européenne, suivie par les parlementaires européens et suivie par un certain nombre d'États. Et la Cour de justice a rendu son avis en disant « C'est inadmissible. »
C'est que la Commission européenne la se commission... fait tirer l'oreille.
Mais
et c'est pour ça qu'on va,
que ça.
On va y revenir. Mais si on reste, Jean-Michel Rivasi, sur la définition des perturbateurs endocriniens, nous avons rencontré un gynécologue, Damien Bourgongeon. Il vient tout juste d'ouvrir la toute première consultation liée aux perturbateurs endocriniens, donc sur les questions de nutrition et de fertilité. On lui a demandé en quoi consistaient ces perturbateurs endocriniens. On l'écoute.
Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui vont se fixer sur les récepteurs où devraient normalement se fixer les hormones. Donc, ils vont prendre la place des hormones que vous fabriquez vous-même. Donc, ça peut soit mimer l'activité de ces hormones, à la limite, ça, c'est pas trop grave, ça peut complètement bloquer l'activité hormonale, ça, c'est plus embêtant, ou ça peut perturber l'activité d'une glande ou d'une autre.
Voilà, donc, ils perturbent l'activité des glandes. Quels sont les dangers? Ils provoqueraient, donc, vous le disiez, Michel Rivasi, finalement, l'explosion un petit peu des maladies modernes, donc cancer, malformation congénitale,
donc... Oui, et puis problème aussi de diminution du système immunitaire, et puis diabète 2. Et là, il y a aussi une explosion qui s'expliquerait, d'après les scientifiques, par rapport à l'augmentation des produits chimiques qu'il y a à la fois dans notre alimentation,
et
dans les
biens
de consommation.
Donc c'est
tout le monde.
D'accord, surtout les fœtus au moment de la grossesse. Les femmes enceintes, voilà. D'accord.
Parce qu'il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'exposition. Si le fœtus est en phase de perturbateurs endocriniens que la mère a, aussi bien dans son environnement que dans ses produits de beauté, que dans son alimentation, eh bien le fœtus aura des problèmes. Et en plus, et ça c'est très nouveau, c'est qu'il n'y a pas de dose. Vous voyez, souvent on disait, c'est la dose qui fait le poison, mais pas du tout sur les perturbateurs endocriniens. À très faible dose, les perturbateurs peuvent avoir plus de conséquences, d'effets sanitaires, qu'à forte dose. Donc c'est pas du tout linéaire.
Est-ce qu'il y a le lien de causalité est clairement établi entre ces maladies et la présence de perturbateurs endocriniens dans notre environnement quotidien? C'est ça la question fondamentale.
Ben la question c'est que il faut raisonner substance par substance. Quand la France en 2011 a interdit le bisphénol dans les biberons, il y a eu des expériences qui ont montré que quand vous aviez un biberon en plastique, eh bien si le lait était chaud, les bisphénols passaient dans le lait. Et après, on a vu, par rapport des endocrinologues, que les enfants qui étaient nourris comme ça avaient plus de problèmes de malformations génitales. Donc vous savez que le lien de causalité, il se fait en fonction d'études, en fonction d'abord des animaux et puis après des enfants. Donc on a pu obtenir l'interdiction sur le plan européen, sur les biberons.
Voilà, mais après, le bisphénol et sur les phtalates aussi, qui étaient dans les tétines.
Voilà. Mais après, le bisphénol, il est aussi, vous voyez, dans les contenants des conserves. Eh bien, la France l'a interdit et l'Europe ne veut pas le faire. Parce qu'elle joue sur, mais tous les experts ne sont pas d'accord. Et surtout que l'industrie, c'est ça. Si vous voulez, moi qui suis députée européenne, c'est mon deuxième mandat. Je ne comprends pas comment l'Europe, qui a protégé la santé des consommateurs européens, avec ce que vous avez appelé la réglementation REACH, vous voyez, sur toutes les substances qu'on a éliminées au fur et à mesure. Pourquoi maintenant, sur les perturbateurs endocriniens, où là, il y a une kyrielle d'études qui montrent qu'il y a un effet, que l'Organisation mondiale de la santé dit c'est une menace mondiale. C'est qu'on s'aperçoit que dans tous les pays développés qui sont confrontés à ces molécules, il y a ces épidémies. Eh bien, la Commission préfère entendre les oreilles de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie chimique, de l'industrie plastique, plutôt que de conserver et de garantir et
alors,
de protéger les citoyens.
Nous avons rencontré, il y a une journaliste indépendante qui a réalisé une enquête remarquable sur ces perturbateurs endocriniens. Son livre « Intoxication, perturbateurs endocriniens, lobbyistes et eurocrates, une bataille d'influence contre la santé ». Nous avons rencontré Stéphane Aurel et qui nous donne notamment le chiffre du coût des perturbateurs endocriniens pour notre économie, pour notre santé. On l'écoute.
Pour chaque année de retard, en fait, on peut presque mettre un coup dessus pour la société. Parce qu'il y a des scientifiques qui ont essayé d'estimer, en fait, le prix des maladies qu'on pense liées à l'exposition à ces substances. Et ils estiment que c'est 157 milliards d'euros par an dans toute l'Union européenne pour soigner les enfants qui ont des problèmes de retard de développement du cerveau, les problèmes de stérilité, les problèmes de diabète, d'obésité, etc.
Voilà, Stéphane Aurel, auteur d'Intoxication, perturbateur endocrinien, lobbyiste et eurocrate, une bataille d'influence contre la santé, journaliste freelance, Jean Quatremer, 157 milliards d'euros en coûts de santé. Voilà l'addition des perturbateurs endocriniens et pourtant on bouge pas.
Mais il faut toujours se méfier de ces chiffres, hein. Vous savez, c'est à chaque fois on annonce 30 millions de créations d'emplois, etc. Donc je me méfie. Ça a un coût, c'est évident. Et puis ça a un coût humain, c'est ce qui est juste insupportable. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que je crois qu'il faut essayer un peu de prendre du recul sur ce dossier. Seulement parce que la Commission joue plusieurs rôles. Et c'est ça qui va pas. C'est-à-dire que la Commission, donc c'est Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Vous savez que dans Tintin, quand vous avez Milou sur l'épaule sur le un petit diable, vous savez, d'un côté un petit ange de l'autre, et qui dit il faut boire, vas-y, voilà, bois un petit coup, mais non, faut pas boire, c'est mauvais, etc. Bon, et c'est ça en permanence. La Commission joue trop de rôles à la fois. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est là pour protéger, faire le marché intérieur et protéger les industriels, ou est-ce qu'elle est là pour protéger la santé humaine? Tout ça est au sein de plusieurs directions qui se font la guerre, et au sein des directions, vous avez des fonctionnaires qui se font la guerre. Et ça, c'est pas normal. Il y a un moment, il va falloir clarifier les rôles. La Commission, où elle est là? Pour faire le marché intérieur, ou elle est là pour protéger la santé humaine. Ou alors, il faut prévoir des agences indépendantes. Vous savez, c'est dans l'air actuellement. Quelqu'un comme, par exemple, Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, dit, bon, la Commission veut être très politique. Ok, elle est politique. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'elle peut continuer à surveiller le pacte de stabilité et les budgets, puisqu'elle prend des décisions politiques? Est-ce qu'elle peut continuer à surveiller, au fond, la concurrence? Ben non, puisqu'elle est politique. Même chose en matière de santé, puisqu'elle est politique. Actuellement, c'est une commission de droite, donc pro-business. Est-ce une commission de droite, pro-business, peut protéger ma santé humaine, alors qu'au fond, elle est plus sensible à la protection des entreprises plutôt que des...
Oui, moi, écoutez, j'ai ici l'attendu de la Cour de justice européenne. Qu'est-ce qu'elle dit sur la Commission? Elle dit la Commission doit faire respecter les traités. Quand les parlementaires ont dit, par rapport à une directive, vous devez faire ces critères en 2013, la Commission, elle est payée pour ça, pour faire respecter la loi. Là, en l'occurrence, elle ne l'a pas fait. Et même, la Cour de justice dit, l'étude d'impact économique...
Oui, elle n'a pas respecté sa propre réglementation.
Exactement. Et les études économiques, c'est pas de son ressort.
Je vous dis, Dr. Jekyll, Mr.
Oui,
Hyde.
Je trouve que la Cour de justice, elle fixe bien le rôle de la Commission. La Commission doit acter, si vous voulez, ce qui est dit dans les traités, ce qui est dit dans les règlements ou les directives.
D'un autre côté, on a besoin de ces substances chimiques. Et si jamais la Commission, qu'elle soit Dr. Jekyll ou Mr. Hyde, j'en sais rien, disait... On interdit telle et telle substance, ça provoquerait des dégâts très importants sur l'économie, des pertes d'emplois, des pertes de chiffre d'affaires, peut-être certaines entreprises qui devraient mettre la clé sous la porte. Perturbateurs endocriniens, les intérêts économiques sont-ils plus importants que notre santé? On poursuit notre discussion juste après une pause. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Voilà, merci de nous retrouver à Bruxelles, au Parlement européen, en compagnie de Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, spécialiste de tout ce qui est médicaments et perturbateurs endocriniens, et Jean Quatremer, spécialiste d'un peu tout, et de rien finalement, auteur du blog Coulisses de Bruxelles. Les perturbateurs endocriniens, les intérêts économiques sont-ils plus importants que notre santé? La Commission européenne vient d'être condamnée, c'était il y a quelques semaines, c'était à la mi-décembre, par la Cour européenne de justice de Luxembourg pour son retard dans la définition des perturbateurs endocriniens. En gros, la Commission européenne se fait tirer l'oreille. Michel Rivasi nous disait, la Commission devait arriver à une définition précise de ce que sont les perturbateurs endocriniens, sans quoi elle ne peut pas légiférer si on n'a pas de définition, et elle traîne. Voilà, ça devait être pour 2013, finalement elle a dit « oh, ce sera pour 2017 ». Finalement, ça pourrait quand même être un petit peu plus tôt, hein, Michel Rivasi.
Ils disent qu'ils vont accélérer, vu qu'ils sont attaqués par la Cour de justice européenne. Ce qui est une première d'ailleurs, hein, que la Commission, on lui dise « vous n'avez pas fait votre boulot, vous devez le faire ». Eh bien, on est dans une situation où elle nous a répondu en disant « on va accélérer l'étude d'impact ». Mais le jugement.
Ils disent
bien
même que ça sera prêt pour l'été, quoi, autour de l'été.
Enfin, étude d'impact, parce qu'en gros, la Commission, sous la pression des lobbies, et parce qu'elle peut pas faire n'importe quoi, a lancé une étude pour déterminer l'impact économique d'une
suppression,
suppression d'une réglementation,
ça n'est pas,
réglementation ça, là-dessus.
Mais l'étude d'impact, comme le disait très bien Michel Rifaggi, j'insiste là-dessus, c'est pas une exigence de la réglementation. Oui, oui. La réglementation, donc, qu'elle a été adoptée en 2006, prévoit une seule chose, c'est que on définit voilà. Ce que sont les perturbateurs endocriniens. Donc la commission dit non, il faut d'abord voir l'étude d'impact.
J'imagine que pourquoi elle tarde, parce que j'imagine mais qu'il y a énormément de lobbyistes qui disent ça vous pouvez pas le mettre, etc.
Bien Anthony, oui, c'est exactement comme en matière de tabac. Comment expliquez-vous que on sait que le tabac est parfaitement cancérigène, qu'on a mis 30 ans étude après étude et que ce produit ne soit toujours pas interdit, et mieux que l'État français par exemple continue à prélever des taxes un maximum et se fait un maximum d'argent grâce à un produit que tout le monde sait cancérigène. Étonnant. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant d'années à interdire par exemple les vous savez le flocage l'amiante dans les bâtiments. Vous vous rendez compte qu'on savait que Jussieu, l'université de Jussieu était bourrée d'amiante pendant 40 ans, on a laissé les étudiants dedans. Il a fallu une décision brutale du président de la République pour qu'enfin on
agisse. Donc là, tant qu'on n'arrive pas à une définition de la Commission européenne, c'est comme si les perturbateurs endocriniens n'existaient pas.
Ils n'existaient pas. On continue à les mettre dans le marché. Et ce qu'on a obtenu quand même, c'est que il va y avoir un débat au niveau du Parlement sur ces perturbateurs endocriniens. Il y a une résolution pour interpeller Schulz, a écrit à Monsieur Juncker.
Martin Schulz, le président du Parlement européen.
Exactement, en disant, mais la Commission, c'est son boulot. Et même, on a interpellé Monsieur Juncker parce que la Commission,
c'est vous voulez,
ça me fait penser aux Romains. Vous savez, ils se mettaient là, ils se cachaient. Pour mieux continuer.
Les Romains.
Les Roumains. J'ai entendu au départ les Roumains se cachaient pour continuer. Les Romains qui faisaient la tortue.
La tortue.
Voilà. D'accord. La tortue. Ben, c'est exactement ça. Donc maintenant, on attaque carrément M. Juncker en disant, M. Juncker, vous êtes responsable de cette commission. La commission a son rôle qui a été défini par la Cour de justice européenne. Maintenant, arrêtez l'étude d'impact. Puisque c'est pas dans ses prérogatives, arrêter l'étude d'impact. Donc, et alors, ce qui est très important à dire, c'est que si demain on définit les critères et qu'il n'y a pas de produit de substitution, on peut continuer à utiliser ces produits en limitant l'exposition, en informant les gens que ces produits
clair,
sont...
En clair, on va dire aux gens, vous achetez un Tupperware, mais bon, sachez que vos enfants seront anormaux.
Non, mais c'est ça. Dans un bocal plastique, un Tupperware, en fait, il y a des phtalates qui permettent d'assouplir le plastique.
Le plastique,
C'est pour ça qu'on en a besoin. Et le bisphénol A, il permet de fabriquer une sorte de vernis qu'on met à l'intérieur des boîtes de conserve et qui ralentit la corrosion du métal. On en a besoin. Et tant qu'on n'a pas trouvé
regardez, quand la France l'a interdit en 2011 et que c'est interdit maintenant
on a continué
dans
à nourrir
contenants,
les bébés.
Eh bien non, on a trouvé des produits de substitution. Si vous dites, vous savez, un industriel, il a besoin de clarté. Si vous dites, voilà, dans 4 ans, dans 5 ans, on va interdire ces substances. Développer la recherche et développement. Et il y a le public et le privé qui développent. Eh bien, on trouve les substances. Si vous voulez, c'est ça. Nous, on est pour l'emploi, on est pour la recherche et développement.
C'est exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé en matière de pollution automobile, ce qui s'est passé en matière d'expérimentation animale pour les produits
cosmétiques.
Exactement la même chose.
Qu'est-ce qui, d'ailleurs, c'est intéressant quand on voit les produits cosmétiques et le nombre de substances interdites. Et là, c'est là qu'on voit il y a des négociations autour du TTIP, le TAFTA, l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Et quand on voit rien que pour les cosmétiques, et on voit la différence d'approche entre les États-Unis et l'Europe, il y a 1100 substances interdites dans les cosmétiques en Europe. Vous savez combien il y en a aux États-Unis, Jean? 11. Voilà. Donc, par exemple, le plomb dans les rouges à lèvres est interdit en Europe. Il ne l'est pas aux États-Unis. Donc, c'est intéressant de voir les différentes approches. Quels sont clairement les intérêts en jeu? Quels sont les lobbies qui sont très actifs là-dessus? Donc, c'est l'agroalimentaire.
Alors,
chimique,
c'est l'agro, mais
plastique.
C'est surtout chimique avec les pesticides, parce qu'il s'avère que un certain nombre de pesticides seraient des perturbateurs endocriniens, donc il faudrait les enlever. Et puis tous les plastiques. Parce qu'on a parlé du bisphénol, c'est dans les plastiques, les phtalates, c'est dans les plastiques. Et là, l'industrie, comme elle ne fait pas de recherche et développement, eh bien, elle se dit, oulala, il va falloir que j'interdise des produits parce qu'il y a une exposition forte. Et donc, nous, on dit, non, fait de la recherche et développement, et au bout de quelques années, ça sera effectivement interdit. Mmh. Donc, de nous faire le chantage en disant, ça va casser l'emploi. Nous, on va développer l'emploi dans la recherche et développement.
Exactement. Voilà.
Et on va faire en sorte à ce que ça ne coûte pas la société.
Un des arguments les plus souvent employés par l'industrie, ça va nous ruiner. Or, à chaque fois, là, je suis désolé de le dire, ça, c'est qu'en réalité, l'industrie.
Jean, je vous rappelle juste que vous êtes sur BFM Business.
Voilà, je sais.
Avant vous lâchiez.
Voilà, l'industrie s'est adaptée. Je veux dire, rappelez-vous par exemple sur la limitation des frais de roaming.
Je traduis, hein, le roaming selon Jean Quatremer, c'est le roaming en fait. Voilà. Ce sont les frais d'itinérance téléphonique quand on est à l'étranger.
Bon, ben, les compagnies de télécom devaient toutes disparaître. Vous vous rappelez quand on avait limité aussi les frais de virement pour les banques? Les banques nous ont expliqué qu'elles allaient faire faillite en 99. Elles n'ont pas fait faillite. Donc l'industrie, rassurez-vous, arrive à s'adapter. Et en plus, surtout quand on la pousse à faire de la recherche et du développement, c'est très bon pour l'emploi, c'est très bon pour la croissance. C'est-à-dire s'asseoir sur un marché et puis ne rien changer, attendre, c'est ce qu'il y a au contraire de pire.
La preuve, on voit par exemple avec le développement de l'information sur Internet, l'industrie des journaux comme Libération a su s'adapter. Vous avez su vous adapter avec le blog Coulisses de Bruxelles. Parmi les solutions, au-delà de tout interdire, on a rencontré l'eurodéputé socialiste français Gilles Pargneau. Et il a une idée qui est intéressante, qui mérite en tout cas qu'on s'y attarde. On l'écoute.
Je propose que nous ayons sur ces produits un feu tricolore, jeu pour enfants. Il est possible d'enlever ces perturbateurs endocriniens. Là, nous aurons ainsi, pour les jeux qui ne posent aucun problème, un feu tricolore avec le vert qui sera mis en avant. Il peut y avoir des cosmétiques, par exemple, où effectivement, il doit y avoir la vigilance. Donc un feu tricolore où c'est le orange qui sera mis en avant. Et puis il peut y avoir des emballages, mais aussi produits alimentaires qui ont fait l'objet de traitements de pesticides. Et là, on dira, attention, changez votre habitude. Et là, ça sera le rouge qui sera prédominant.
Voilà Gilles Pargneau qui nous propose des feux tricolores. Qu'en pensez-vous, Michel Rivasi?
Écoutez, si la substance est très dangereuse...
Rouge de colère.
Rouge de colère.
Oui, rouge de colère contre la Commission
pour les auditeurs
et contre
en radio,
parce que
Michel Rivasi a un tailleur, une veste totalement rouge. Donc c'est pour ça que je faisais cette blague. Pardon.
Oui, moi, je suis un peu sceptique sur cette proposition. Pourquoi ? Parce que si vraiment la substance est très dangereuse, il faut mieux faire un contrat contrainte avec les industriels en disant, au bout de 3 ans, il faut trouver un produit de substitution. Alors que là, c'est comme si on acceptait que ces substances très toxiques existent encore, donc ça fera une exposition à la population. Et comme on sait que c'est à très faible dose, vous voyez que les très faibles doses peuvent avoir un effet, on n'est pas sur une idée de seuil. Et puis orange, ça va faire quoi? Vous pouvez le faire, plus ou moins? Non, on est dans la chimie dure, là. On est dans la menace mondiale. De deux choses l'une, c'est un perturbateur endocrinien, on sait le danger que ça peut avoir. Donc, le principe européen, c'est le principe de précaution, on le supprime et on se donne un délai pour la suppression. C'est pas dangereux. Donc, je vois pas pourquoi on met ces feux tricolores. Ça n'a pas de sens d'un point de vue biologique et d'un point de vue sanitaire.
Jean, que pensez-vous de l'idée?
Non, moi, je suis exactement sur la ligne de Michel Rivasi.
C'était une idée au départ pour l'industrie
orange.
Agroalimentaire, et c'est pour ça qu'on avait parlé à un moment donné du Nutella, et il y avait
le
tout ce scandale, et l'idée c'était de mettre les feux tricolores sur l'alimentation, si c'était trop gras, trop salé, etc., et donc de mettre des points rouges ou oranges ou verts.
C'est exactement la même hypocrisie qu'à propos du tabac. Je veux dire, nous faire des paquets de tabac
Vous dites que Gilles Pargneau est un hypocrite?
En l'occurrence, il propose une solution hypocrite, oui, bien sûr, mais c'est normal d'ailleurs. Je veux dire, il est socialiste, non?
Jean Quatremer qui se fait beaucoup d'amis, Michel Rivasi qui rigole et qui est donc le complice. Non, je vous ai coupé.
Non, mais je veux dire que sur les paquets de tabac, on vous montre des gens en phase finale de cancer. Je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est le feu orange, hein, c'est l'équivalent du feu orange. C'est au fond, vous prenez ce produit. Puis vos enfants sont peut-être anormaux. Voilà, faut que vous le sachiez. Ou ils auront peut-être un diabète. Ça n'a pas de sens. Encore une fois, on doit prendre ses responsabilités. Le tabac, c'est typique.
Le tabac,
c'est dangereux. ou c'est dangereux, ou ça n'est pas dangereux. Mmh. Si c'est dangereux, interdisons-le. Mais arrêtons ce truc avec... Moi, je supporte plus ces affichages. Peut donner le cancer, machin.
Sachant que le cow-boy des publicités Marlboro est décédé bien d'un cancer du poumon.
D'un cancer du poumon, absolument.
Merci infiniment. Michel Rivasi, toujours un plaisir de vous avoir dans cette émission. À très bientôt, Michel Rivasi, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Je pense qu'on n'en a pas fini, on n'aura pas fini si tôt avec cette histoire des perturbateurs endocriniens.
Non, et M. Juncker risque d'être attaqué et on va marquer « Wanted ».
Wanted, d'accord. Voilà. Eh bien, pour revenir sur le western et le cowboy de Marlboro. Jean Quatremer, vous restez avec nous. On va être rejoint par nos complices, Charles de Marcilly, Maya de la Baume, de Politico pour ses coulisses de l'Europe, et puis Éric Scholl, le patron de Courrier International, pour sa revue de presse européenne. À tout de suite après le journal.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Voilà, merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours ici dans ce magnifique studio du Parlement européen à Bruxelles. Dans la première demi-heure, on a parlé des perturbateurs endocriniens. Maintenant, on va rester avec un perturbateur, Jean Quatremer.
Perturbé.
Et puis, des voilà, ça n'engage que vous. Bonjour, Maya de la Baume de Politico. De quoi allez-vous nous parler dans votre chronique « Les coulisses de l'Europe » Il paraît que le Parlement s'ennuie.
Les parlementaires s'ennuient, oui. C'est pas un scoop, mais quand même.
C'est pas un scoop. Depuis Rachida Dati et son appel. Ah, oui. Ouais, d'accord, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Elle avait dit au secours.
Oui, au téléphone avec une amie, ras-le-bol, j'en ai marre.
Alors qu'elle était dans l'hémicycle bleu du Parlement européen de Strasbourg. On va revenir là-dessus. Bonjour, Charles de Marcilly.
Bonjour, Anthony.
Comment allez-vous? La Fondation Robert Schuman se porte bien?
Très bien. On publie aussi des analyses sur le travail des eurodéputés, sur le mieux légiférer et pourquoi, à défaut de s'ennuyer, ils sont un peu désœuvrés.
Vous aviez fait une tribune dans les Échos, hein, je crois, là-dessus. On va pouvoir en parler. Et puis, on va être rejoint en ligne depuis la rédaction de Courrier International par le patron de cette rédaction, Éric Scholl, avec une arme anti-spéculation en Espagne. Les Danois qui font danser les réfugiés. Et puis, les chefs allemands en manque de considération. Demandez le programme de cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrer dans les coulisses de l'Europe.
Pénétrer dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume. Alors le Parlement et le perturbateur Jean Quatremer. Le Parlement européen s'ennuie sec. En fait, la raison, c'est parce que Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, il a d'ailleurs été élu sur ce programme-là, il a dit on veut la better regulation, on veut mieux légiférer dans le chef du chef, ça veut dire moins légiférer et surtout accorder de l'importance aux choses importantes.
Oui, ça veut dire rationaliser et du coup exactement mettre la priorité sur les lois qui sont importantes. Alors le problème, c'est que dans les corridors du Parlement, on entend dans les couloirs du Parlement,
franco-anglo-saxonne ancienne journaliste du New York Times.
J'aimais bien votre better regulation aussi. Je me suis dit, il faut que je le dise à la française, better regulation. Mais du coup, on entend beaucoup les députés dire tout simplement qu'il y a moins de travail sur la table, il y a moins de lois, il y a moins de législation et que ça pose problème forcément parce que il faut bien que les eurodéputés fassent quelque chose dans ce Parlement. Mais c'est une des grandes aussi, je pense, grandes choses intéressantes de la Commission aujourd'hui, c'est qu'on essaye de faire un vrai écumage des lois. Alors, c'est plus la taille des concombres ou les sacs en plastique,
la courbure des bananes.
C'est
Il y a toujours les sacs en plastique.
Il y a les sacs en plastique. Il y a pas la courbure des bananes, c'est vrai. Et la taille des concombres, c'est vrai, il y a plus. Mais du coup, il y a moins sur la table. Et les députés s'ennuient, et on l'entend tout le temps, on entend ça souvent. Après, il y a des députés plus actifs que d'autres sur des sujets importants.
Ça se traduit par un véritable ennui de la part des eurodéputés?
Tout simplement, comme il y a moins de textes législatifs, ils se préoccupent beaucoup de faire ce qu'on appelle les rapports d'initiative, qui sont des rapports sur lesquels ils ont moins de responsabilités, parce que c'est des rapports d'information.
Les résolutions et les rapports d'initiative qui ne servent à rien.
J'allais pas dire ça, non.
D'accord, mais vous pensez très fort, Charles de Marcilly.
Qui sont juridiquement pas contraignants.
Voilà.
Mais qui politiquement le sont. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, le Bariamon, le siège de la Commission européenne, est plus politique. Et paradoxalement, ça a dépolisé ici le Parlement européen, qu'on appelle aussi le caprice des dieux. Pour trois raisons. La première, c'est qu'ils ont déjà en effet moins à faire et que quand la Commission propose, et sur l'année 2015, elle a proposé 23 nouvelles initiatives, d'habitude c'est entre 110 et 130, donc on est sur quelque chose qui est complètement démesuré. Quand elle propose, évidemment, c'est théoriquement mieux ficelé, ou alors ce sont des grandes lignes à commenter, à analyser, à soutenir, mais la Commission, le Parlement européen est un peu coincé. On le voit sur le fonds d'investissement, on ne peut pas être contre l'investissement, donc le Parlement n'a pas vraiment la voix au chapitre. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il continue à voter un petit peu de législatif, mais pas beaucoup. Sur l'année 2015, c'est 15 directives, 5 règlements, et là c'est plutôt déjà très cadré, y compris par la législature précédente. Et donc la comparaison entre les commissions Barroso et les parlements d'avant et celui d'aujourd'hui montre qu'on a, à défaut d'être désœuvré, en tout cas un Parlement qui est paradoxalement moins politique.
Jean, un Parlement moins politique ? Mais je partage pas tout à fait l'analyse, c'est-à-dire que le problème fondamental qu'a l'Union européenne, c'est qu'on n'a pas cette distinction qui existe dans la plupart des démocraties entre ce qui est du domaine législatif et du domaine réglementaire. En France, le domaine de la loi, par exemple, est extrêmement réduit, ce qui n'empêche pas le Parlement français d'avoir une activité législative extrêmement, touffue, même peut-être trop. Il faut que les parlementaires s'habituent à ne plus voter des textes, par exemple, sur la taille des rétroviseurs de tracteur. Ça, c'est un texte qui est mythique pour moi. J'avais découvert qu'effectivement, pour permettre l'exportation entre les pays des tracteurs, il fallait normaliser les rétroviseurs. Et il y a eu une bataille homérique dans les couloirs de ce Parlement sur la taille des rétroviseurs de tracteurs parce qu'effectivement, il y avait des constructeurs qui auraient dû modifier leur chaîne de fabrication. Et ça, il faut quand même être honnête, ça relève plutôt du pouvoir réglementaire. Donc que les députés se concentrent sur quelques grands textes, un peu comme on le fait dans toutes les grandes démocraties, moi, personnellement, ça ne me choque pas, mais ça veut dire une vraie transformation du travail du député. Et c'est vrai aussi que ce qui va apparaître, c'est qu'au fond, vu le domaine de compétences de l'Union européenne, qui est assez réduite, les domaines de compétences de l'Union européenne sont très réduits par rapport à ce qui se passe dans nos démocraties, il y a trop de parlementaires européens. Honnêtement, on pourrait faire le même job avec la moitié moins de parlementaires et on s'en porterait très bien. Le problème, c'est que vous faites disparaître les Luxembourgeois, les Maltais, les Lituaniens, etc. Ça, c'est un problème majeur.
Leur représentativité.
Oui, enfin, en tout cas, il n'y aura plus qu'un député maltais.
Mais est-ce que ce n'est pas finalement une excuse, quand je lisais votre article dans Politico Maya de la Baume, pour certains eurodéputés...
Vous lisez l'anglais ?
De dire un petit peu, j'essaye, grâce à... Il y a des traducteurs sur Internet.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Est-ce que ce n'est pas finalement une excuse en or pour les eurodéputés de dire, bon, il n'y a pas assez de travail ici à Bruxelles ou Strasbourg, moi je vais plutôt accorder de l'intérêt à la politique nationale ?
Oui, mais c'est bien là le problème, justement. C'est qu'ils sont tous beaucoup plus concentrés sur la politique nationale que sur la politique... européenne, à part quelques exceptions, c'est...
Verhofstadt,
voilà, ceux qui sont très européens.
Donc Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge de la famille libérale, qui maintenant dirige justement les libéraux-démocrates.
Ouais.
Et puis vous avez des députés qui ont une carrière ici au Parlement européen et qui souhaitent le garder. Il y avait Joseph Daul auparavant, on peut regarder Schulz, le président du Parlement européen.
Joseph Daul, cet Alsacien, je décrypte en même temps, Joseph Daul, Alsacien, président du Parti populaire européen, donc d'abord du groupe au Parlement, et puis maintenant de la famille. Et c'est une vraie star ici à Bruxelles. Il était très connu, très influent, alors que c'est un inconnu total.
Au niveau national. Mais ce qu'il a fait le choix, cette politique européenne, est de s'investir ici, donc avec des responsabilités, avec un poids politique réel. Et Schulz fait la même chose. Alors dans ce cas, peut-être que lui veut repartir au niveau national et qu'il se sert de Bruxelles finalement comme strapontin. Mais donc les stratégies individuelles sont différentes.
On dit que Martin Schulz rêverait de devenir, par exemple, ministre des Affaires étrangères en Allemagne.
Par exemple.
Par exemple, Jean.
Non, mais c'est le problème des députés, de la façon dont les députés font de la politique nationale ou européenne, je crois, n'est pas lié à l'activité ou pas du Parlement lui-même. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des députés ici qui faisaient du national, d'autres qui faisaient de l'européen. Et ça me choque pas qu'on fasse de l'européen, du national dans un Parlement européen. Pourquoi ? Parce que au fond, on doit vendre de l'Europe au niveau national. Donc moi, qui ai des gens qui passent beaucoup de temps dans leur circonscription pendant que d'autres font le boulot européen, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose qui est normal. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, en France, c'est la même chose. À Westminster, c'est la même chose. Je veux dire qu'on se répartit les rôles entre les députés. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas souvent présent là que vous faites au final...
Vous êtes utile sur l'institution dans son ensemble.
Oui, exact. Enfin, vous avez un job à Bruxelles quand même. Vous êtes là, vous êtes quand même
centré. Oui, mais ils se répartissent. Ils se répartissent les fonctions. Ceux qui, dans une commission parlementaire, vont avoir des vrais postes.
Brice Hortefeux...
Ah, mais ça, c'est méchant.
on les Maya. Voit pas beaucoup.
Maya, c'est méchant.
Attendez.
C'est pas sympa.
Non, mais j'aime pas les... C'est vrai, il faut pas citer les gens. Mais les Français, on les voit beaucoup plus, je trouve, au niveau national qu'au niveau... Enfin, européens, ils sont...
Et ça se traduit en termes d'influence, par exemple, sur le nombre de présidences parlementaires qu'on a pu obtenir. C'est deux fois moins que sur les législatures précédentes. Donc oui, il y a aussi une question d'investissement et d'équilibre, justement, soit au sein des groupes politiques, soit même des commissions parlementaires, pour savoir qui va être capable de lutter. Vous le mettez dans votre article, quand vous citez certains eurodéputés, pour lutter contre les Allemands et s'assurer qu'on va avoir les rapports de poids, d'influence, qui vont pour le coup impacter 500 millions d'Européens.
Voilà, c'est dommage quand même que ces eurodéputés qui ont tout pour s'amuser s'ennuient, mais c'est la réalité, visiblement.
Ils ont le salaire pour s'amuser, hein.
Oui, ils s'ennuient pas, ils sont désœuvrés.
C'est ça dépend, désœuvrés.
Voilà, c'est ça.
Exactement. Ils ont le salaire pour s'amuser et les frais.
Écoutez, ils ont beaucoup de frais.
Ils ne se limitent pas à l'argent.
Il faut expliquer ça au Front National, qui a quelques problèmes avec dans la façon dont il gère l'argent qu'on lui remet chaque mois, hein, quand même, me semble-t-il.
Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Voilà, bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
En ligne depuis la rédaction de Courrier International à Paris, dont vous êtes le grand patron. Merci d'être avec nous. Direction, tiens, vous allez nous faire voyager un petit peu. On part pour Madrid, qui vient d'inventer une nouvelle arme anti-spéculation. De quoi s'agit-il, Éric ?
Eh bien, il s'agit d'une coopérative d'habitants. En fait, c'est quelque chose qui existe ailleurs, dans les pays du Nord de l'Europe, mais c'est une grande nouveauté à Madrid. C'est des familles, des foyers qui décident de créer une coopérative et donc l'idée, c'est d'avoir dans une résidence, eh bien, des pièces communes, mais ça va bien au-delà de ça. C'est qu'on n'est ni propriétaire ni locataire, on est dans une coopérative.
D'accord, mais concrètement, ça se passe comment, cette coopérative où on n'est ni propriétaire ni locataire? On paye quand même quelque chose.
Alors, le journal El Mundo raconte exactement comment ça se passe. On va faire un apport, alors ça c'est assez classique, un apport d'environ 45 000 euros, je parle pour un appartement qui ferait entre 70 et 75 mètres carrés. Et puis ensuite, chaque mois, on va payer 650 euros par mois. L'idée, c'est qu'on ne peut pas revendre cet appartement. Ce qu'on va redonner, c'est un droit d'usage. Et ce n'est pas de la revente. Et c'est en cela que c'est une arme anti-spéculation. Et je crois que c'était nécessaire, en tout cas en Espagne, en tout cas, où la spéculation était très importante.
Donc c'est entre le time-sharing, l'amphithéose. En tout cas, on ne peut pas faire de spéculation. Ça évite la bulle dont l'Espagne a tant souffert, Jean.
Il faut quand même apporter 45 000 euros. C'est pas rien, c'est-à-dire que vous avez une part de coopérative.
Pour un eurodéputé, c'est 3 mois de travail.
Ça, c'est vrai. mais si vous apportez 45 000 euros, donc vous avez une part de la coopérative, et cette part de coopérative est incessible. Et est-ce qu'elle est au moins transmissible à ses héritiers? C'est une question. Éric, est-ce qu'elle est transmissible aux héritiers?
Oui, bien sûr, elle est transmissible. Elle peut être transférée aux héritiers, bien sûr. C'est comme ça se passe. Le modèle n'est pas complètement nouveau. Hein. Il existe même, il est assez répandu dans les pays du Nord.
D'accord, voilà, en Norvège par exemple, ou au Danemark. Tiens, le Danemark qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours, Éric, avec cette volonté de durcir sa politique d'accueil. Pourtant, Copenhague accueille actuellement un projet artistique destiné en quelque sorte à établir le dialogue.
Exactement, c'est Politiken qui raconte, le journal Politiken qui nous raconte comment des réfugiés participent à un projet de ballet. Alors ils se sont associés avec le Théâtre Royal, avec la Croix-Rouge aussi, qui est un des opérateurs de cette opération artistique. Et donc l'idée du metteur en scène, c'est de laisser les réfugiés parler d'eux. Et comme dit le metteur en scène, nous parlons beaucoup des réfugiés. Il est intéressant de voir comment eux-mêmes parlent de leur statut de réfugié.
D'accord, donc ils font danser les réfugiés, mais ça doit quand même être compliqué quand même de monter une troupe de ballet avec des réfugiés.
Ben oui, je vais vous dire, c'est très compliqué parce que au départ il y avait 10 réfugiés qui devaient participer à cette œuvre, à ce ballet, et en fait à l'arrivée ils sont plus que 6. Pourquoi? Parce que il y en a 2 qui se sont fait refuser le statut d'asile, il y en a un qui a été arrêté entre temps et expulsé, et puis il y en a un qui est parti tout seul. Donc vous voyez, ils sont plus que 6. On espère j'espère que le spectacle qui doit durer une trois semaines va pouvoir durer jusqu'au bout.
Et les autres se sont fait saisir leurs biens.
Cool. Voilà. Oui, c'est ça. Ils se sont fait saisir leurs biens pour payer. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Maya, vous? C'est une bonne idée de faire ce genre de choses?
C'est étrange que ça se passe au Danemark vu ce qui se passe en ce moment. C'est un petit peu, on saisit les biens des réfugiés en ce moment et puis d'un coup on entend qu'il y a un opéra avec des réfugiés. Enfin, c'est un peu bizarre.
Oui,
c'est
enfin, tout ça
est un peu.
Oui. C'est pas sympathique.
Non, c'est pas sympathique.
C'est pas très sympathique. Non, mais parce que.
Merci Jean Quatremer pour cette analyse en profondeur.
Non, mais vous vous rendez compte qu'ils viennent d'adopter une loi qui prévoit de saisir les bijoux, les biens matériels qui dépassent 1300 euros, je crois, environ, des réfugiés.
Il y a d'autres pays européens qui veulent le faire aussi.
Voilà. Est-ce que vous connaissez beaucoup de réfugiés riches? Moi, quand je connais des riches, ils sont pas réfugiés. Ils sont, alors ici, ils sont réfugiés fiscaux. Ils sont à Bruxelles, par exemple. Mais ils ne sont pas réfugiés, ils ne prennent pas la route des Balkans. Donc c'est quoi? On fait porter des soupçons absolument insupportables sur les réfugiés. En clair, ils arrivent avec les fouilles pleines d'argent, de bijoux, etc. Ça rappelle exactement ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs. Je suis désolé, quand les nazis laissaient, avant 1941, les Juifs quitter l'Allemagne, ils saisissaient l'ensemble de leurs biens. Ils pouvaient partir avec une valise et les vêtements qu'ils avaient sur eux. Et c'est ça le Danemark. Alors leur balai.
Bon, après les balais, Eric, petit détour par les tables allemandes. Oui, les tables allemandes, parce que ça peut paraître étrange. On n'est pas habitué, franchement, à parler de la cuisine allemande, mais pourtant, il paraît qu'on devrait.
Mais tu dois. Mais on a tort, parce que figurez-vous que l'Allemagne, et là, je vais peut-être vous surprendre, mais là, l'Allemagne se situe maintenant au deuxième rang dans le monde, juste derrière la France, pour son nombre de restaurants étoilés. Hein, aujourd'hui, il y a 290 restaurants étoilés en Allemagne, c'est plus 30% par rapport à 2010. Alors, la suite de Zeitung a consacré un très long article, une sorte de grande enquête sur la cuisine allemande en montrant un paradoxe incroyable, c'est que d'un côté on a tous ces chefs étoilés et de l'autre en fait on a un peuple allemand qui a un énorme problème dans son rapport à la grande cuisine, un rapport pathologique. Et alors cet article c'est une sorte de plaidoyer pour le bien manger et il explique bien comment à table eh bien l'allemand est déchiré entre la convoitise, l'avarice, le désir de se faire plaisir et l'envie, le sentiment de culpabilité. Et je vous résume, Yann Anthony, en deux chiffres, voilà, 200 euros pour une personne à l'opéra, pas de quoi s'émouvoir, écrit l'auteur de l'article, 200 euros pour un dîner, eh bien, autant avaler ce bel argent. C'est en tout cas cette mentalité allemande, et vous voyez, ça pose un petit souci.
D'accord, les Allemands, concrètement, ils veulent aussi en avoir pour leur argent, et apparemment, ils disent, bon, ça c'est peut-être un petit peu cher, est-ce que ça vaut le coup de prendre un plat qui va me coûter 65 euros ou autre?
Ou alors de voir un ballet danois.
Ou de voir un ballet danois. Si la presse allemande, bon, n'est pas politiquement correcte, au Royaume-Uni, c'est au contraire l'invasion du politiquement correct, Eric, et en particulier dans les universités.
Oui, dans les universités, même dans les conseils d'étudiants. Alors c'est incroyable, il y a cette histoire à Édimbourg, mais qu'on retrouve dans toutes les universités. On adopte en ce moment des nouveaux règlements pour interdire, pour limiter au maximum la parole, en tout cas tout ce qui pourrait un petit peu choquer, provoquer. Par exemple, à Édimbourg, le conseil des étudiants a décidé qu'on n'avait plus le droit d'interrompre, de rire ou de distraire un orateur dans les réunions des conseils d'étudiants. Alors on peut applaudir lorsqu'une proposition est adoptée.
Eric, j'en dis, ça c'est bien.
On peut applaudir lorsqu'une proposition est adoptée, mais lorsqu'elle est refusée, on n'a pas le droit de, surtout d'applaudir. Et l'idée, hein, c'est de faire des campus qui seraient des safe spaces, c'est-à-dire des endroits sûrs et accueillants. Autant vous dire que ça fait quand même beaucoup réfléchir sur la liberté de parole, la liberté d'expression, parce que tout ça est décliné à l'envi dans cet article. Hein, par exemple, il y a des endroits où on ne peut plus porter de sombrero parce que ça ferait un peu raciste, etc. Donc il y a toute une quantité d'exemples qui montrent à quel point aujourd'hui les campus au Royaume-Uni deviennent des lieux vraiment du politiquement correct absolu.
Bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Charles de Marseille?
Eh ben qu'on n'ira jamais faire l'émission en Angleterre dans un campus britannique parce que nous on peut aussi s'amuser. Je suis sûr que Jean veut porter un sombrero. Voilà. Et que,
Ils sont plutôt bons dans le politiquement incorrect en règle générale.
Oui.
C'est pour ça que pour moi les Anglais
ça m'étonne que ça vienne de là.
Oui. Mais c'est surprenant. D'un côté,
en France, ça peut pas surprendre beaucoup parce que dans les amphis et dans les cours magistraux, je veux dire, la liberté d'expression n'est pas vraiment de mise.
Oui, c'est une excellente remarque. C'est vrai que parce que nous avons les cours ex cathedra, ce qui est pas le cas dans la culture anglo-saxonne, l'étudiant a le droit d'interrompre le professeur. Et c'est d'ailleurs extrêmement déstabilisant. Moi, j'ai donné des cours au Canada et c'est vrai que donc
ils étaient tous en sombrero,
tous en train
de vous jeter
à moitié
des bigorneaux
buvant des bières
en faisant le balai.
Et c'était très étonnant de se faire interrompre en permanence par les étudiants qui vous demandaient de justifier alors que c'est une démonstration. Et voilà.
Merci beaucoup Eric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International, pour cette revue de presse passionnante. À la semaine prochaine. Merci Maya de la Baume pour votre participation et cette chronique Les coulisses de l'Europe avec, il paraît, ces eurodéputés qui s'ennuient. Merci Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman pour votre participation. Merci Jean Quatremer du blog Coulisses de Bruxelles pour votre participation. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, même jour, même heure, le samedi, le dimanche, en télé, en radio. Ça vaut le coup, hein, en télé, on a un studio magnifique ici avec toutes les équipes du Parlement européen. Bonne fin de week-end à tous, à l'écoute de BFM Business.